Et nous pencher sur la Bible, ce livre merveilleux, unique, qui est la parole de Dieu. Peut-être au milieu de nous, certains sont étonnés par l'événement que nous venons de vivre. Peut-être cela a-t-il suscité en vous un certain nombre de questions, d'interrogations quant à ces baptêmes. Il y a un précédent célèbre en matière de baptême qui nous est relaté dans la Bible. C'est le baptême de Jésus. Alors si vous voulez bien, eh bien, nous allons lire ce texte justement qui fait référence au moment où le Seigneur Jésus, lui aussi, eh bien, a pris le baptême. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, et au verset 13, je pense que le texte va s'afficher, s'il est de bonne volonté. Nous lisons ceci. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, il s'agit de Jean-Baptiste, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ses paroles, « Celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. » Allons compléter ce texte par un autre passage qui se trouve toujours dans l'évangile de Matthieu, mais cette fois au chapitre 28 et au verset 18. C'est tout à la fin de l'évangile de Matthieu, le chapitre 28 et le verset 18. Jésus est mort, il est ressuscité, il s'apprête à repartir dans le ciel, vers son Père, vers Dieu, et il donne ses dernières instructions à ses apôtres. En leur disant ceci, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà, nous revenons pour le moment au premier texte que nous avons lu. Il est dit, n'est-ce pas, tout au début de ce passage, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. » Voilà, Jésus jusque-là avait résidé dans le petit village de Nazareth qui se trouve au nord du pays d'Israël, et pour se rendre vers le fleuve, la rivière du Jourdain, là où Jean le prophète baptisé, n'est-ce pas, il a fallu qu'il franchisse quelques dizaines de kilomètres. Il y a donc eu un cheminement que Jésus a entrepris pour accéder jusqu'à ce baptême. Eh bien, on pourrait établir un parallèle entre ce qui s'est passé là pour le Seigneur et ce qui s'est passé pour une personne qui décide de prendre le baptême. Le baptême constitue, en fait, pour le croyant, un aboutissement. L'aboutissement d'un cheminement, d'un parcours, non pas géographique, comme c'était le cas pour le Seigneur, mais spirituel. Il s'agit tout d'abord de prendre conscience de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Et que sommes-nous? Eh bien, la Bible dit tout de go que nous sommes des pécheurs. L'Écriture dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il faut avoir le courage, la franchise, l'honnêteté, le bon sens aussi, quelque part, de se repentir, c'est-à-dire d'avouer, de confesser à Dieu notre état, notre condition de pécheur, nous en humilier devant lui et lui en demander pardon. D'ailleurs, d'autres textes nous disent que du temps justement de Jean-Baptiste, les foules se rendaient auprès du prophète et confessant leurs péchés, eh bien, été baptisé par lui dans le fleuve du Jourdain. Jésus, quant à lui, était sans péché, sans péché. Mais il a accepté de s'identifier aux pécheurs que nous sommes en choisissant d'être baptisé comme eux. Il y a eu une identification. Et ce ne fut pas la seule occasion dans laquelle Jésus s'est identifié aux pécheurs. Il s'est identifié aussi, peut-être faut-il dire surtout, lorsqu'il est mort sur la croix du calvaire. Un petit peu partout dans nos pays occidentaux, nous voyons à la croisée des chemins une croix qui se dresse. Quelle est la signification de cet événement? Pourquoi la croix est-elle devenue le symbole du christianisme? Eh bien, voyez-vous, Jésus sur la croix n'a pas simplement été victime d'une erreur judiciaire, de la méchanceté de quelques hommes qui lui en voulaient à mort, c'est le cas de le dire. Non, il y a une réalité plus profonde que celle-là. La Bible dit « Christ est mort pour nos péchés ». Je viens de dire il y a un instant que nous sommes des pécheurs. Et mes amis, la justice et la sainteté de Dieu exigent que le péché soit sanctionné. Un texte de l'Écriture dit que le salaire du péché, c'est la mort. Non pas seulement dans son sens physique, mais dans son sens spirituel, éternel, l'éternelle séparation d'avec Dieu, ce que nous appelons communément l'enfer. Et pour nous épargner ce sort tragique, eh bien Jésus, qui, rappelons-le, était sans péché, a pris à sa charge, a pris sur lui le poids, la culpabilité de nos fautes. Et il a accepté, prenant notre place, de subir pour nous le châtiment que nous méritions. Voilà le sens de la mort de Jésus. Eh bien, justement, quand on est baptisé par le baptême, on affirme publiquement notre foi dans le sacrifice de Jésus qui seul nous permet d'obtenir le pardon dont nous avons besoin. Vous voyez, Dieu ne nous demande pas de faire des choses extraordinaires, il sait que nous en sommes incapables. Ne demande pas d'essayer en quelque sorte de décrocher la lune, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il s'agit simplement de venir vers lui et d'accepter dans un élan de foi ce qu'il a fait en notre faveur. Et nous recevons alors sa grâce, sa miséricorde, son pardon, son salut, quelles que soient les erreurs que nous ayons pu commettre jusque-là. Ainsi, Jésus fut baptisé. Dans le texte qui nous occupe, remarquons ceci, c'est que ce fut de sa propre initiative. Le texte dit « Jésus vint au Jourdain vers Jean-Baptiste pour être baptisé par lui ». Sa propre initiative, son choix, sa décision. Personne ne lui a imposé, personne ne l'a obligé à en passer par là, non. C'était un homme d'environ une trentaine d'années, nous dit l'Écriture à cette époque-là, donc un homme en âge de prendre ses responsabilités. Et en matière de baptême, chers amis, c'est comme ça que les choses doivent se passer. L'apôtre Pierre dira dans l'une de ses épîtres qu'il a rédigées sous l'inspiration divine et qui se trouve contenue dans la Bible, l'apôtre Pierre dit donc que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Voyez, c'est donc un engagement personnel que personne ne peut ni ne doit prendre à notre place. Vous en conviendrez, ce n'est pas un nouveau-né, un bébé innocent, plus ou moins inconscient, qui est en mesure de prendre un engagement aussi solennel. Non, pour être en mesure de s'engager, il faut être en âge de le faire, en âge de prendre, tout comme Jésus, nos responsabilités. Et si un nouveau-né n'est pas en mesure de prendre un engagement aussi solennel, avons-nous le droit de le lui imposer? Certainement pas. Puis il y a notre précision dans ce texte. Vous voyez, la Bible est précise. Elle ne nous laisse pas dans la divagation, dans l'appréciation personnelle, mais elle nous donne des renseignements très utiles. Il est dit qu'après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors, la logique veut que s'il en est sorti, c'est qu'auparavant, il y était entré. Il y était entré auparavant. Et cela correspond à une réalité. Le mot baptême, qui vient d'un terme grec, puisque à l'origine, le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, a été rédigée à l'origine en grec. Le mot baptême signifie immersion, sans vous en rendre compte, sans le savoir peut-être. Toutes les fois que vous prononcez ce mot baptême, vous dites immersion. Cela représente, cela symbolise cette immersion, notre union avec le Christ, notre union dans la foi au Christ, dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Être chrétien, cela comporte deux réalités. Il s'agit tout d'abord de mourir, rassurez-vous, non pas physiquement, mais de mourir à notre passé de pécheur. Voilà, la page est tournée, je renonce au style de vie que j'ai eu jusqu'à présent, je renonce à toutes ces pratiques vaines, contraires, aux enseignements de la parole de Dieu, aux commandements divins. Et puis, s'il s'agit de mourir, eh bien, il s'agit aussi de ressusciter à une vie nouvelle, dans laquelle, avec la grâce et le secours de Dieu, nous nous appliquerons à vivre en disciples de Christ. Ça veut dire l'aimer, tout d'abord. Ça veut dire le servir, lui obéir, faisant de lui seul, Jésus, le sujet, l'objet de notre foi. Il dira, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. C'est vrai que les systèmes religieux de toutes sortes ont inventé de toutes pièces d'autres voies, d'autres chemins, d'autres directions, d'autres tentatives pour parvenir jusqu'à Dieu. Mes amis, si je puis m'exprimer ainsi, ce sont des voies de garage, sinon d'égarement. Le seul chemin qui nous permette d'atteindre le cœur du Père, c'est Jésus. Je suis le chemin, dira-t-il, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il revendique lui-même l'exclusivité en matière de foi et l'Écriture dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est livré lui-même en rançon pour tous. Et voyez-vous, le baptême c'est ça, cela représente symboliquement bien entendu ce fait de la mort au passé, et de la renaissance à une vie nouvelle. Jésus lui-même emploiera cette expression de naître de nouveau. Lorsque nous sommes plongés dans le bain baptismal, au travers de ce geste, nous sommes en train de dire, Seigneur, avec toi, je meurs à mon passé. Je meurs à la vie déréglée, peut-être, je n'en faisais qu'à ma tête, me souciant fort peu de ce qui te plaisait ou ce qui te déplaisait. Et maintenant, à ce genre de vie, d'existence, je renonce, je meurs. Et lorsque je sors du baptistère, eh bien, Seigneur, c'est là le signe seulement, que je commence avec toi une vie nouvelle. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle religion. Non. Nous ne sommes pas là, ici, chers amis, excusez-moi l'expression, pour vous vanter, vous vendre une camelote religieuse. Nous sommes là pour vous dire que ce qu'il vous faut vivre, c'est une expérience spirituelle qui vous transformera à tout jamais et qui fera de vous, non pas des religions d'une autre manière que ce que vous avez été jusqu'à présent, mais des êtres nouveaux. J'aime citer ce verset qui dit que celui qui est en Christ, vous voyez, le vrai chrétien, le vrai disciple, eh bien, il est une nouvelle créature. Quelque chose s'est passé, un bouleversement, une métamorphose intérieure produite par le Saint-Esprit, qui fait que les choses anciennes désormais sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est de là qu'on va apprendre maintenant à cheminer tout au long de leur existence en compagnie du Seigneur Jésus. Et c'est merveilleux. Attention, ça n'est pas toujours facile, mais c'est merveilleux parce que le Seigneur est fidèle et que nous pouvons en maintes et maintes occasions vérifier sa bonté, son amour pour nous. Beaucoup d'entre nous, nous sommes baptisés depuis des dizaines d'années. Et nous pourrions dire, eh bien, si c'était à refaire, nous le referions. Parce que le meilleur, c'est de suivre le Seigneur. Ah, des gens me disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vas perdre ta jeunesse, tu vas perdre ta vie, tu ne pourras plus faire ceci, cela. Mes amis, avec le Seigneur, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Le Seigneur ne nous enlève rien qui nous soit profitable, il nous enlève ce qui nous est préjudiciable. N'est-ce pas? Et il nous engage dans une vie nouvelle. Nous baptisons les croyants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça aussi, eh bien, c'est conforme non pas à notre théologie personnelle, mais à la parole de Dieu, nous l'avons lu tout à l'heure. Hein? Jésus a donné cet ordre à ses apôtres, cette mission d'aller proclamer la bonne nouvelle, car l'évangile c'est une bonne nouvelle, la bonne nouvelle que Dieu nous aime, la bonne nouvelle que Dieu nous veut du bien, la bonne nouvelle qu'il veut nous prendre par la main pour nous conduire un jour jusque dans son royaume éternel. Allez, et faites de toutes les nations, quoi, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer, à pratiquer, à appliquer tout ce que je vous ai prescrit. Vous avez remarqué, je pense, que lors du baptême de Jésus, les trois personnes de la Trinité étaient présentes et actives. Hein? Nous sommes chrétiens et nous croyons à ce mystère, c'en est un, c'est qu'il y a un seul Dieu qui se révèle, qui se manifeste en trois personnes. Alors c'est vrai que pour notre raisonnement logique, ça paraît un petit peu compliqué. Mais heureusement que c'est comme ça, parce que si je pouvais expliquer Dieu, Dieu cesserait d'être Dieu. Si je peux faire rentrer Dieu dans ma boîte crânienne, c'est qu'il n'est plus Dieu. Il faut que quelque part, il me dépasse, il me surpasse. Et c'est ainsi, il y a un seul Dieu, mais un Dieu qui se révèle et se manifeste en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là, lors du baptême de Jésus, le Père était présent, n'est-ce pas ? Cette voix divine s'est faite entendre du haut du ciel. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et puis le Fils, eh bien, il était là, le Fils. Jésus, le Verbe incarné, la parole faite chair. Et puis le Saint-Esprit qui est descendu sur la forme corporelle d'une colombe sur la personne du Christ. Eh bien, si les trois personnes de la Trinité étaient présentes lors du baptême de Jésus, elles sont également présentes lors de tout véritable baptême chrétien. Lors de notre baptême, le Père devient notre Père. Nous sommes adoptés dans la famille divine. Vous savez, il y a cette prière fameuse, qui est une excellente prière. Notre Père qui est aux cieux. Et bien des gens l'ont formulée alors que Dieu n'était pas leur Père. Parce que s'il est vrai que Dieu est le créateur de tous les hommes, dans le sens spirituel, il n'est pas le Père de tous les hommes. Pour qu'il le devienne, il faut qu'il y ait une démarche spirituelle de notre part qui consiste à choisir de faire de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. L'évangile de Jean, qui se trouve dans la Bible, chapitre 1, verset 12, nous dit que à ceux qui l'ont reçu, Jésus, à ceux qui l'ont accepté en tant que Sauveur et Seigneur, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais sont nés de Dieu. Vous voyez, il y a cette adoption divine. Désormais, nous pouvons appeler Dieu Père. Même le texte biblique dit que nous pouvons l'appeler Abba Père. Abba, c'est en araméen, la langue du Christ, l'équivalent de notre mot français, Papa, vous voyez. Une relation d'intimité. Il devient notre Père. Et à ce titre, il prend soin de nous. Voyez, Dieu, pour le vrai chrétien, n'est pas un personnage perdu dans le cosmos, dans l'infini de l'espace. Non, Dieu est proche. Il est mon Père. Et jour après jour, il prend soin de moi. Et puis, lors de tout véritable chrétien, baptême chrétien, pardon, le Fils est là, Jésus. C'est le don de Dieu pour assurer notre salut. Il y a un verset célèbre dans l'évangile de Jean, chapitre 3, qui dit que Dieu a tant aimé le monde, l'humanité dans sa globalité, mais aussi chaque être humain individuellement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné ce qu'il avait de meilleur. Il a donné d'abord dans la crèche de Bethléem. Il y a des gens qui en restent là. Jésus, c'est le petit Jésus. J'ai horreur de cette expression. Parce que Jésus n'a jamais été petit, mes amis. Même bébé dans la crèche de Bethléem, il était déjà grand parce qu'il était le Fils de Dieu. Et puis, il a grandi et il est mort sur une croix. Jésus, c'est le don de Dieu à l'humanité. Notre vie peut changer parce que Christ s'est sacrifié pour nous. Ma vie, un jour, a changé. Et je vous assure, particulièrement ces temps-ci, je rends grâce à Dieu. Je lui exprime bien souvent ma reconnaissance profonde. Je suis profondément ému de constater, de toucher du doigt combien, au cours de ces décennies qui se sont écoulées, Dieu a été fidèle et bon. Jésus, c'est le Sauveur dont vous avez besoin. Certains disent, vous les chrétiens, vous êtes des êtres faibles, inconsistants, mous, sans personnalité. Vous avez besoin d'une béquille. Alors la béquille, c'est Jésus, comme ça pourrait être autre chose. Non, mes amis, c'est pas ça du tout. Bien sûr que nous sommes faibles. Qui n'est pas faible ici? Les coups du sort, qui que nous soyons, même les plus costauds, moralement, même ceux qui ont le plus de force de caractère, peuvent nous atteindre au point de nous démolir. Et je vous dis, moi, que nous avons tous, tant que nous sommes, besoin du Seigneur dans notre vie. Que c'est bon, lorsque l'épreuve vient nous frapper, de savoir qu'il est là. Et je sais de quoi je parle. On peut passer par des moments douloureux. La vie chrétienne n'est pas un tapis de roses. Le Seigneur n'a jamais dit, si tu te convertis, mon ami, tu verras, tout ira bien, il n'y aura pas une ombre au tableau. Non, 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 ce n'est pas un film d'Hollywood, la vie chrétienne. Hein. C'est une vie authentique, faite de luttes, de combats, de problèmes, de difficultés. Mais dans les pires moments, je vous assure, la présence du Seigneur, ce n'est pas une illusion, ça. C'est une réalité que l'on peut vivre, palpable, vérifiable. La présence de Jésus est à nos côtés, nous accompagne, il nous console, il nous rassure, il nous fortifie, il nous tire d'affaire. Et puis le Saint-Esprit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Eh bien le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, vient demeurer en nous. Et ça opère, j'en ai dit deux mots tout à l'heure, un changement radical, une métamorphose, une renaissance. Un soir, un homme profondément pieux, religieux, un juif, un notable juif, est venu rencontrer Jésus pour avoir avec lui un débat de philosophe, de docteur en théologie. Et Jésus l'a mis au parfum tout de suite. Hein. Il a dit, il te faut naître de nouveau. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle religion, de nouveaux rites, de nouveaux sacrements. Tu as besoin de naître de nouveau. Et c'est vrai pour nous tous, voyez. Quand le Saint-Esprit vient, il nous fait naître de nouveau. Ça veut dire qu'il vient briser en nous le pouvoir que le péché a exercé jusque-là sur notre vie. Quoi? Si nous sommes un temps soit peu honnêtes avec nous-mêmes, nous savons que le péché, c'est une réalité, même si nous l'appelons autrement. Et qu'il y a parfois bien des choses qui nous rendent captifs, c'est pas vrai? Alors on peut être captif de choses particulièrement grossières, l'alcool, la drogue, une sexualité désordonnée. Ben, on peut être esclave simplement du ressentiment. Ça ne se voit pas. C'est dans le cœur, de la haine, de la jalousie, du mauvais caractère. Tenez, il y a des gens qui pourrissent la vie de leur entourage, c'est vrai ou c'est pas vrai, parce qu'ils ont mauvais caractère et ils s'en veulent à mort. Je ne devrais pas être comme ça. Allez, la prochaine fois, je ne me mettrai pas en colère. Et puis la prochaine fois, c'est comme dans la fois d'avant. Parce que le péché, c'est une puissance. Mais quand Christ vient dans notre vie, il brise les liens. Alléluia. Il y a au milieu de nous des hommes et des femmes qui ont, c'est pas pour les dévaloriser, un triste passé. Il y a parmi nous des hommes et des femmes qui étaient violents, qui étaient sur le chemin de la délinquance, qui étaient des toxicomanes, qui étaient en train de mener une vie, comme on dit, de patachon, mais un jour, ils ont crié leur misère au Seigneur en disant, « Je ne puis pas me changer toi-même, fais-le !» Et Dieu l'a fait. Et aujourd'hui, ils ne sont pas victimes de je ne sais plus quelle manipulation psychologique, ils sont libres de la vraie liberté que donne Christ. Jésus a dit, « Celui qui se livre au péché, il devient l'esclave du péché. » Et si le Fils de Dieu, c'est-à-dire lui-même, vous affranchit, vous libère par la puissance du Saint-Esprit, vous deviendrez réellement libre. Le monde prétend à la liberté. C'est même la formule de la République française. Liberté, égalité, fraternité. Mais on n'est pas si libre que ça. Il n'y a rien de pire que d'être esclave de soi-même. C'est vrai ou c'est pas vrai? Que d'être captif de ses propres mauvaises habitudes. Et il y a des gens qui soupirent après la délivrance et qui ne la trouvent pas. La délivrance, vous la trouverez en Jésus-Christ, qui veut vous communiquer son esprit et qui veut vous affranchir de tout ce qui vous retient captif jusqu'à présent. Je termine. Jean-Baptiste avait quelques réticences, quelques scrupules à baptiser Jésus. Il faut le comprendre. Et il avait conscience qu'il était le Fils de Dieu. Vous voyez, moi je ne me vois pas baptiser Jésus dans ce baptistère. Alors il a dit, Seigneur, ce n'est pas possible, ça devrait être l'inverse, c'est toi qui devrais me baptiser. Et Jésus lui a dit, ne te fais pas de soucis, t'inquiète pas, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et l'Écriture dit que Jean, désormais, ne lui résiste plus. S'il était convenable et juste pour Jésus d'être baptisé, laissez-moi vous dire, à combien plus forte raison est-ce convenable et juste pour nous-mêmes. Et il ne faut pas lui résister, mais il faut lui obéir. Que son nom soit béni. Prions-le quelques instants. Voulez-vous ? Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci